L'Angleterre et Israël avaient envahi l'Ukraine.
Alors, le Torah de cette semaine, donc sur la parasha de Lech Lecha, il est forcément impacté par ce qu'on vit actuellement, bien que ça c'est un lointain lien. En fait, il est tiré d'un livre, vous avez Ta'am Vedat. En fait, c'est pas trop connu ce Sefer. Il a été écrit par un contemporain qui est encore vivant, qui s'appelle Rav Moshe Sternbourg. Voilà, si vous voulez voir sa photo, c'est là. C'est lui. Il a 97 ans. Alors, Moshe Sternbourg, il habite à Yerushalayim. Et en fait, il est le Av Beit Din du Badat, de la Eda Haredit. Je m'explique. C'est qu'en Israël, il y a plein de grades. Il y a les normaux, les ci, les ça, les orthodoxes, les ultra-orthodoxes. Ouais. La Eda Haredit, on pourrait la qualifier sans caractère péjoratif, c'est les ultra-orthodoxes. Même là-dedans, vous avez encore des groupes et des sous-groupes. Vous avez les Satmar, ceux de la Charim, mais en tout cas, Eda Haredit, vous n'avez pas plus. Dans l'orthodoxie, vous n'avez pas plus. La preuve en est, et en vérité, c'est une vraie preuve, c'est que c'est eux qui tiennent le badat. Vous savez, quand en Israël, le badat, badat, toute la journée, tout le monde dit badat. D'accord? C'est ce fameux tampon, le petit logo comme ça, qui est synonyme de cacheroute exemplaire. À tel point que même le commun des Israéliens, quand ils veulent vraiment manger cachère, ils disent ah, badat, je veux badat, badat. D'accord? Et en général, toutes les religions en Israël, ils prennent badat. Alors maintenant, il y a beaucoup d'autres organismes de cacheroute, mais badat, c'est vraiment une cacheroute exceptionnelle qui, théoriquement, est sans défaut. Et donc lui, ce Rav Moshe Sternbourg, il est le Av Beit Din, donc le président du tribunal de la Eda Haredit. Donc c'est vraiment bon, quelqu'un de... Bon, à part que c'est un grand Talmid Chacham, donc en réalité, il est relativement discret, il est né à Londres, puis après il a fait une période longtemps en Eretz Israël, et puis après il est parti à Johannesburg, etc. Et puis il y avait de nombreuses années maintenant qu'il a remplacé le Dayan Weiss, si vous avez entendu parler le grand Dayan Weiss, qui était le Rav de la Eda Haredit. Donc c'est un grand, grand Talmid Chacham. Alors bien évidemment, la Eda Haredit, ce n'est pas des prosionistes, dans le sens, pas, ça n'a rien à voir pour Israël, ils sont tous en Israël, ils sont tous à Yerushalayim, etc. Mais par rapport au gouvernement, par rapport, en fait, c'est surtout par rapport à l'aspect assimilationniste qu'avait le sionisme initial. En fait, maintenant, les choses se sont totalement, totalement réduites, hein, ça n'existe plus. Oh, le voilà, ma surprise, viens, viens. Viens, cher Sergueï, viens. Je leur ai dit, il y aurait une grande surprise. Ça va, là, assieds-toi. Alors, donc, au début du sionisme, il y avait plusieurs parties dans le sionisme. Il y avait un sionisme laïque, un sionisme religieux. Bon, il y a plusieurs tendances, etc. Et c'est sur la partie du sionisme laïque que ces ultra-orthodoxes ils se sont opposés. Maintenant, bon, les clivages ils sont moins importants qu'avant. Mais disons qu'en fait, lui, il était un grand opposant au sionisme laïque, hein, qu'on s'entende bien, pas dans le sens sionisme d'habiter en Eretz Israël. Et il a dit une très belle phrase, il a dit, il conseillait à ses élèves, il a dit, il vaut mieux habiter en Houtz-Laaretz, en dehors d'Israël, et rêver d'Israël, plutôt que d'habiter en Israël et rêver de l'Amérique. Il disait, c'est vrai, bon, c'est un des problèmes en Israël, que souvent, vous les voyez d'ailleurs, ils sont partout dans le monde, ils vont partout dans le monde, bon, ça n'empêche pas qu'ils reviennent. Mais c'est vrai, souvent on a pour certains en tout cas, ce désir de les États-Unis, l'Europe, etc. Donc avec tout ça reste un très grand Talmid Chacham, d'accord? Ses positions politiques, on va dire, ou pseudo-politiques, on va les laisser de côté. Et donc il a écrit plusieurs livres sur la paracha, on parle d'un rabbi qui habite Rav Moshe Sternbourg. Ah oui, pour ceux qui ne sont pas là, la très grande surprise, c'est la venue de Sergueï. Il nous écoute, notre cher Sergueï. Et donc, il s'attaque à un point aujourd'hui qui est une des 10 épreuves d'Abraham. Je m'explique. On sait qu'Abraham, et ça c'est une Mishnah dans Pirkei Avot, dans le 5e Pérek, il a eu 10 épreuves. Il a eu une vie longue, qui est longuement décrite dans la Torah, en tout cas pour la deuxième moitié de sa vie, d'accord? Parce que la première moitié, elle est dans le flou. Tout ce qui s'est passé avant l'Ech Lecha, on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais en tout cas, la Torah, les Chachamim, pardon, nous disent qu'il a eu 10 épreuves. Alors, le sens de épreuve, d'accord, c'est des nisyonot, asara nisyonot, des épreuves, bon, mais en réalité, on sait que le mot épreuve, c'est dans le sens tester, des tests. Et ça vient du mot étendard, comme dit le Ramban, que c'est quelque chose qui est une mise en valeur de la personnalité. C'est-à-dire que toutes les épreuves qu'ont traversé Abraham et puis après Yitzhak et Yaakov, c'était en fait des moyens de leur faire comprendre à eux-mêmes et également à leurs descendants ce qu'ils avaient dans le ventre, entre guillemets, ce qu'ils pouvaient produire. D'accord ? Et Abraham, il a eu des épreuves crescendo. Et c'est vrai que l'épreuve, elle te permet à toi de savoir véritablement jusqu'où ton potentiel. Exactement. Donc en réalité, c'est dans ce sens-là. Parce qu'Hachem, il n'a pas besoin d'épreuves, comme il dit le Maharal et le Ramban. Hachem, de toute manière, il sait ce qu'il y a à l'intérieur d'un individu. Donc c'est pas pour Hachem les épreuves. C'est plus pour nous-mêmes. Que parfois, on traverse une épreuve et on arrive à s'en sortir. On se dit, purée, j'ai quand même traversé ça, c'est extraordinaire. Eh bien, dans les 10 épreuves d'Abraham, on en connaît certaines. On connaît tous la 10e, c'est les sacrifices d'Yitzhak, c'est ce qu'il y a de plus ultime. Mais il y en a d'autres qui sont moins connues. Et en fait, il faut les pêcher dans toute l'histoire de la vie d'Abraham. La première, c'est l'Ech Lecha. Enfin, pardon. La première explicite, c'est l'Ech Lecha, de quitter son père, de quitter son pays. Mais en réalité, il y en a certains, comme il dit Rashi, qui font remonter les épreuves, même avant l'Ech Lecha, alors qu'on ne connaissait pas Abraham. Il a toute une histoire antérieure, parce qu'Hachem ne s'adresse pas à quelqu'un en disant l'Ech Lecha. C'est-à-dire qu'Abraham, il avait une démarche, quand il était petit, il a exploré l'univers, etc. Et donc, par exemple, il y a une des épreuves qui est quand il était jeté dans la fournaise par le roi Nemrod, etc., etc. Après, il y a l'histoire de Hagar, après, il y a l'histoire de la famille quand il est arrivé en Eretz Israël, etc. Il y a une des épreuves qui n'est pas connue parce qu'elle est complexe, c'est la guerre des 4 rois contre les 5 rois. Alors, c'est un épisode de la paracha qui est un peu mystérieux, où la Torah nous raconte qu'il y avait 4 rois, 4 imbéciles, d'accord, puisque la Torah nous dit, qui se battraient contre 5 rois, encore plus imbéciles. C'est des rois telés, en fait, hein, c'est des gouverneurs de province. Ils se battaient les uns contre les autres, etc. Et finalement, bon, je vous passe, il y a de nombreux détails qui servent à rien, entre guillemets, d'accord. Et la Torah, ça s'allonge là-dessus pour nous dire que finalement, les 4 rois ont gagné les 5 rois. Et dans les 5 rois, il y avait le roi de Sodome, etc. Et ils ont capturé toute la ville de Sodome. Donc la ville de Sodome et Gomorre faisait partie du territoire des 5 rois. Et donc les 4 rois, ils se sont battus contre les 5, ils ont gagné. Et en capturant Sodome, ils ont capturé Lot, puisque Lot, le neveu d'Abraham, d'accord. Et il y a des midrashim qui disent que c'était même le frère de Sarah. C'était le fils de son frère, mais c'était en même temps le frère de Sarah. Il a été capturé. Alors, c'est important de mettre tout ce contexte pour comprendre quelle est l'épreuve. Il a été capturé. Et donc il y a un gentil monsieur qui est venu dire à Abraham, tu sais, ben, ton neveu a été capturé. Et avec toute la ville de Lot, pardon, toute la ville de Sodome. Et donc Abraham, ni une ni deux, il a réuni le peu de gens qu'il avait. La Torah nous dit qu'il a réuni 318 personnes. Mais en réalité, les Chachamim disent qu'il n'y avait pas 318 personnes. 318, c'est la valeur numérique de Eliezer, son serviteur. Et il est parti la foncer pour délivrer Lot. C'est ce qu'il a fait. Il a battu les 4 rois. Avec le peu de soldats qu'il avait, mais il n'y avait certainement pas beaucoup, il a délivré son neveu Lot, ok, et il a délivré donc les gens de Sodome, et chacun est retourné chez lui. L'histoire extraordinaire, et c'est important, c'est que si vous vous rappelez, tout cet aspect historique, il est important pour comprendre la Torah, qu'en réalité, Abraham et Lot, ils sont partis dans l'Ech Lecha ensemble, pour une aventure en Israël, pour suivre Hachem. Et puis Lot, à un moment, il a décidé non. Il a dit non, ça ne m'intéresse pas l'aventure d'Abraham. Je quitte Abraham, oui, et je vais faire ma propre vie. Et il est parti à Sodome. Donc, quitter Abraham pour aller à Sodome, tu vois, c'est comme quitter Yerushalayim pour partir à Los Angeles, je ne sais quoi. Enfin, c'est vraiment... Sodome, c'était la débauche. Donc, en réalité, le choix de Lot, c'était un choix terrible. C'est une grosse déception pour Abraham Avinu. Puisque... Alors, il y a beaucoup de choses pour comprendre pourquoi c'est une grande déception, parce qu'il ne faut pas oublier qu'Abraham Avinu, il voulait créer un nouveau mode de vie, découvrir un dieu, le monothéisme, etc. Et Abraham Avinu n'avait pas d'enfant. Jusqu'à l'âge de 100 ans, il n'avait pas d'enfant. Par contre, il avait un neveu. Quand on a un neveu, c'est le fils de son frère, on pense qu'il va faire quelque chose, il va prendre l'affaire familiale. Et il l'a abandonné pour aller dans la débauche. D'accord ? Donc, c'était vraiment une grande déception, c'était vraiment terrible pour Abraham Avinu. Et donc, bon, il n'a rien dit. Il a dit, on se sépare, l'autre, il a choisi l'autre. Au milieu de ça, Non seulement il a quitté Abraham, mais en plus il trouve le moyen de se faire capturer. Et on vient dire à Abraham, mais c'est ton neveu le débauché. Il est parti à Sodome, il a été capturé. Donc vous imaginez le dilemme d'Abraham. Il a quand même été. Il a quand même s'est battu. Il a délivré Lot. Et ce chacham de Lot, il a fait quoi? Il est resté à Sodome. Il est resté. C'est pas qu'il a dit à Abraham, avinu, j'ai vu, vraiment, j'étais puni, j'étais abandonné, etc. Il est resté à Sodome, et la preuve en est, c'est que quand il y a eu, dans la paracha prochaine, la destruction de Sodome et Gomorre, Lot était encore là-bas.
Et oui.
Ça veut dire qu'il n'a pas compris le message, il est resté encore là-bas avec sa femme et ses enfants, et il a fallu le sauvetage par rapport au mérite d'Abraham, que l'ange est venu, il l'a sauvé, il l'a sorti de là avec ses deux filles, etc., toute cette histoire-là. Donc vraiment, Lot, c'est un drôle de personnage. Et on est, en fait, dans cette charnière-là. Et dans la Rashi et d'autres Midrashim disent que c'est une des épreuves d'Abraham. La guerre des quatre rois contre les cinq rois, c'est une des épreuves. Alors, c'est là où le Rav Steinbourg, il intervient. Il fallait tout ça pour comprendre. Pourquoi ça s'appelle une épreuve? Qu'est-ce qu'il y a eu? Surtout qu'on appelle la guerre des quatre rois contre les cinq rois. Ça n'a rien à voir avec Abraham. Abraham n'intervient qu'en deuxième partie. Quand les quatre rois gagnent, les cinq rois qu'ils ont pris Lot, alors il faut que maintenant il aille se battre contre les quatre rois pour sortir Lot de la griffe du Hamas. Entre guillemets, non, c'est pour faire une relation avec notre... Ok? Donc ça n'a rien à voir. Alors regardez là. Et donc l'idée c'est celle-là. Et en réalité c'est une bonne réflexion. Où elle est, en quoi réside cette épreuve d'Abraham? Où il y a une épreuve là-dedans?
C'est dans le danger.
Mais quelle épreuve il y a?
Il peut se faire tuer, quoi.
Bon, oui.
C'est
ça l'épreuve. C'est une épreuve. Donc, je comprends. Toi, tu dis que c'est une épreuve militaire. Une épreuve de force. D'accord? Il a montré sa bravoure. Mais c'est pas le genre d'épreuve qu'on attend d'Abraham. Les épreuves d'Abraham, c'est plus des épreuves morales. C'est pour montrer sa puissance. Ça veut dire sa puissance morale.
Bah,
qu'il soit.
De ne pas abandonner l'autre.
C'est l'échec envers son neveu.
Ça, c'est une épreuve. Alors, lui, il dit l'inverse de vous. Je comprends. Lui dit c'est ne pas abandonner son neveu. Et vous vous dites c'est...
C'est l'échec envers son neveu. Et ça c'est une épreuve. Il l'a délivré, il est retourné.
Et ça c'est une épreuve.
Ben il peut le prendre comme une épreuve. Hein.
Bon, c'est bien. En fait les deux se complètent en réalité, d'accord? C'est qu'à la fois il n'a pas abandonné son neveu, mais non seulement il ne l'a pas abandonné, mais il l'a fait gratuitement. Tu vois, c'est pas je vais récupérer.
Et puis c'était son choix, et lui il doit suivre quelque part son choix. Abraham a suivi le choix de l'autre pour aller, je vais te délivrer.
Je sais pas jusqu'où tu vas aller.
Que, pas le choix, mais en tout cas il oublie ou perd des temps ou quelque chose comme ça. Donc dans tous les cas, je dois faire cet effort-là pour te faire délivrer et après je m'occupe de mes affaires. Donc, quand tu
oui. Ça. Alors bon, les deux sont justes, ça veut dire que ce que vous dites, les deux c'est juste, c'est qu'il y a on peut voir cette chose comme ça, c'est qu'il a fait un effort extraordinaire pour délivrer quelqu'un qu'il avait abandonné, d'accord, qu'il avait déçu, c'est son neveu qui l'a déçu et qui lui a fait perdre son espoir, parce que pour l'instant il n'y a pas encore de Yitzhak, c'est-à-dire que s'il n'y a pas d'Yitzhak, le message d'Abraham il va s'effilocher. Et donc il fait un acte de bravoure, pour reprendre la position de Gérard, il fait un acte de bravoure gratuit. Gratuit à l'aller et même gratuit au retour, c'est-à-dire gratuit à l'aller parce qu'il va délivrer quelqu'un qu'il avait méprisé, et gratuit au retour parce que finalement il pensait, peut-être on peut imaginer qu'il va, je vais le ramener vers moi, il va comprendre, il a pris du plomb dans la tête, rien du tout. Il le délivre, il retourne s'installer à Sodome jusqu'à la destruction de Sodome, d'accord? Vous comprenez? Donc effectivement, c'est dans ce sens-là, Gérard, que c'est plus une épreuve morale. D'accord, qu'une épreuve physique. Mais il y a les deux en même temps. Ouais.
Il disait qu'il n'a pas fait de chouva dans Lot et revenir chez son.
Oui.
Est-ce qu'il n'était pas prisonnier de ses biens? Il est toujours, on en est là. Hein. Il est prisonnier de ses biens, il peut pas rejoindre Abraham.
Il y a un moment où tu poses des questions quand même. Mais je sais pas, c'est pas. Oui, peut-être qu'il avait beaucoup de biens, non, c'est possible comme tu dis. Mais après, il y a les biens et il y a sa moralité, quoi. Oui. D'accord? Il a une dette maintenant vis-à-vis d'Abraham. Il lui a sauvé la vie finalement. Alors regardez. Vaishma Abraham Kinishma Achiv. Et il a entendu Abraham Kinishma Achiv que son frère avait été capturé. Alors Rachid dit, ce n'est pas son frère, mais ils se ressemblaient. Ils avaient le même visage. C'était le fils de son frère, c'était son neveu. En même temps son beau-frère, puisqu'on a dit que c'était le frère de Sarah. D'accord? Mais ils se ressemblaient tellement que effectivement, Abraham, probablement, il a longtemps imaginé que c'est lui qui prendrait sa suite, puisque Yitzhak aussi ressemble à Abraham, les patriarches se ressemblaient. Donc, pour prendre la suite, c'est quand même bien d'avoir quelqu'un qui te ressemble. Tamoua. Et il dit, le Rav Steinbourg, Tamoua, c'est étonnant. Lama Abraham, Yatsal il Chom Neged Umot. Pourquoi est-ce qu'Abraham, il est sorti pour lutter contre ces nations, et Atsil arrive pour sauver son frère, entre guillemets, son neveu? Valo Lot, la verra. Mais Lot, c'est quelqu'un qui est le maître de la faute. Il fait des averot. Kem voir Berashi ou Ben Nazir, comme la Gemara le dit. Il dit pourquoi? Parce que quand il est sorti initialement vers Sdom, Shayush Tufezima, qui était plongé dans la débauche, Nitkaven la verra. Son idée c'était la verra. C'est pas parce que c'était un endroit riche là-bas. C'est parce que c'était des gens qui étaient débauchés. C'est ça qu'il a choisi. L'autre, quand on va à Sdom, c'est pour la débauche. Tu vas pas t'installer dans des endroits malfamés de Paris en disant oui, mais non, là-bas mon commerce va bien marcher. Tu te mets ailleurs, c'est tout. Donc lui, c'est ça qu'il voulait. Et pourquoi est-ce qu'Avraham, il se sent obligé de sortir en guerre pour lui? Mais maintenant, c'est une question. Est-ce qu'on est obligé de donner sa vie pour sauver quelqu'un qui finalement s'en fiche de la moralité? Alors vous allez me dire, c'est un juif. Encore que là-bas, il n'y avait pas encore de juifs, il n'y avait pas encore de peuple. Le peuple se déterminait, alors que maintenant, un juif, même loin, c'est toujours un juif. Il n'y a pas de choix. Avant, c'était quoi un juif? Un juif, c'est quelqu'un qui s'associait à la tribu d'Abraham, qui suivait le chemin d'Abraham. C'est sa famille, je ne dis pas, c'est son neveu. Mais il a fait un choix qu'il a écarté de sa route, qu'il a écarté de sa vie. Est-ce que je me sens obligé, je me sens en obligation de donner ma vie pour tout le monde? Bon, pour mon neveu peut-être. Mais c'est un homme qui avait choisi l'Avera, mais fais ta vie. Ou bien Avot, et dans Pirkei Avot, comme je vous ai dit, Pirkei Mishna Gimel, mais voir, Shavram Nitnasa Asara Nitzionot. Qu'Avraham Avinu, il a été éprouvé par 10 épreuves. Ou Bénéhem, et parmi celles-là, Milchemet Amlachim, la guerre des rois. Et qui me voit Berashi ou Berambam. C'est d'ailleurs la position de Rashi et Rambam. Pourquoi il dit Rashi et Rambam? Parce que, comme je vous ai dit au début, c'est une grande discussion dans les Chachamim. Quelles sont véritablement les 10 épreuves d'Avraham? C'est intéressant. Pourquoi? Parce que les épreuves d'Avraham, à la fois elles nous permettent de comprendre le personnage, et à la fois aussi elles ont tracé la route. Parce que c'est marqué que toutes les épreuves qu'a traversé Abraham, ça nous donne à nous, ses descendants, des forces pour pouvoir traverser le même type d'épreuve. Comme j'ai marqué, que pourquoi les Juifs, ils ont tenu dans l'Inquisition, dans la Shoah, partout? Parce que depuis Abraham Avinu, on est habitué qu'on peut donner sa vie pour Dieu. D'accord? Et que, c'est-à-dire, pour garder son authenticité et garder son amour à la Torah, un Juif, il est capable de donner sa vie dans toutes les situations. Mais caché. Et c'est difficile. Eze nisayon ayakan. Quelle est l'épreuve? Ou michiyev otolatzel. Qui l'a obligé à sortir? Il demande, il dit pourquoi il y a une épreuve? Où est-ce qu'elle se situe l'épreuve? Donc dans sa présentation à lui, il dit, il a un neveu qui est un pauvre type, qui a choisi la voie de la débauche, qui a abandonné son oncle, d'accord? Où elle est l'épreuve? C'est quoi l'épreuve? D'accord? Ça montre quoi? Vénire, il dit, il me semble, d'accord? Donc en réalité, c'est surtout la question qui est intéressante. Lui, il donne une réponse, et comme on a dit tout à l'heure, vous avez dit aussi vous, il y a plusieurs manières de réfléchir à ça, de voir quelle est l'épreuve et quelle est la grandeur d'Abraham là-dedans. Vénire, il me semble, Shamram Avinu, Ichnis Acherim Tachakat Vesherina. Abraham Avinu avait rentré beaucoup de gens sous l'aile de la Shrina. Comme c'est marqué au début de la paracha, que quand il est parti avec l'Erlecha, il est parti avec toutes les âmes qu'ils avaient fabriquées, lui et sa femme. Les âmes qu'il avait fabriquées, c'est tous les gens qu'il avait convertis, qu'il avait convaincus de la justesse du monothéisme. Donc, il y avait beaucoup de gens qui suivaient sa voie. Ve'ayu ele kemo bnei beto mamash. Ceux-là, c'était comme des gens de sa maison, ça veut dire c'était sa famille. D'accord? C'est-à-dire tous les gens, tous les bédouins, tous les gens qu'il avait rencontrés, c'était comme sa propre famille. C'était sa tribu, c'est ça qui devait donner plus tard le peuple juif, même si dans la réalité ça n'est pas tout à fait passé comme ça, parce que le peuple juif il s'est constitué avec sa propre descendance, d'accord? Mais bon, après il y a des gens qui se sont agglomérés. Ve'achshav, il dit, et maintenant, tous ces gens-là, k'sheir'u sheben achiv v'chanicho, quand ils vont voir que le fils de son frère, v'chanicho, celui qui l'a éduqué, nishba, il a été capturé, ve'avram ozvolenavcho, et Abraham, il l'abandonne, d'accord? Ils vont répandre dans tout endroit du monde, chez Lokedai liot meanche Avraham. Ça sert à rien de faire partie des gens d'Avraham, ou ma'aminim belokav, et de ceux qui croient en son Dieu. Il dit qu'en réalité, c'est vrai qu'au fond de lui-même, je ne sais pas, mais en tout cas, de façon logique, il n'avait pas de raison de se sacrifier pour son neveu. Mais en réalité, il l'a fait parce que les gens n'auraient pas compris ça. Ils ont dit, comment ? Quelqu'un qui est son propre neveu, il ne se sacrifie pas pour le sauver. Alors nous, qu'est-ce qu'on a besoin de s'attacher à une religion qui ne respecte même pas ses propres liens familiaux ? Sheiné, puisque Afilu et Ben Achiv, même le fils de son frère, Zanach, il l'abandonne, Be'et Sarato, au moment de sa souffrance, Velo Bala et Silo, il ne va pas pour le sauver. Ve'Avraham Evin, et Avraham Avinu, il a compris, Asakana chez Badava, qui avait un danger là-dedans. Et c'est là que se situe le Nisayon. Donc Nisayon, en réalité, il faut plus, c'est une épreuve, c'est vrai, mais c'est plus un choix, il se pose un choix crucial, voilà. Tous les nisyonotes, c'est des choix cruciaux. Par exemple, et c'est comme ça qu'il faut repérer les nisyonotes. Le premier nisayon, c'est l'Ech Lecha, d'accord ? Il a abandonné son père, qui était vieux. Il a abandonné toute sa famille. Donc ça, qu'est-ce que je fais ? Je reste avec mon père ou je m'en vais ? Le dixième nisayon, c'est le pire. Pourquoi ? Parce qu'après avoir attendu tellement de temps, il a un descendant qui va pouvoir perpétuer son œuvre, c'est Yitzhak. Et maintenant, Dieu lui demande de le tuer. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui... ça m'a plu, je comprends même plus où est le plan. D'accord ? Ça, c'était le plus grand mystère d'Abraham Avinu. C'est aussi très intéressant dans ce qu'on vit, parce qu'il y a des moments où on ne comprend rien. On ne comprend même pas qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il veut, Hachem ? C'est comme ça que le Midrash, il dit, qu'il explique la Akeda, qu'Abraham Avinu, au fond de lui, il a dit « qu'est-ce que veut Hachem ?» Mais il a dit « je ne sais pas ce que veut Hachem, mais j'avance. » Et quand il y a eu le dénouement de l'histoire, Abraham il a dit « ben maintenant, je vais te demander. » J'avais plein de questions. Je t'ai rien demandé pendant la phase dure. J'ai fait tout ce qu'il fallait jusqu'au bout, mais j'ai rien compris à l'histoire. La même chose, quand il viendra le Machiav, bien sûr qu'on demandera. On demandera qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi, et tout ce que le peuple juif il a traversé. On va demander à Hachem. Maintenant, tu vas nous expliquer, hein. C'est-à-dire, on ne peut pas avancer comme ça. On avance parce qu'on fait confiance à Hachem. On sait que lui, il nous amène dans le bon objectif. Mais le cheminement, les méandres du chemin qu'on a traversé, ça, Hachem, forcément, il nous devra l'explication. Mais nous, on a Emouna que l'explication, c'est lui qui l'a, il la donnera. C'est pas qu'il nous dira, ah oui, c'est comme ça, c'est des aléas de la route. C'est pas vrai. Hachem, il n'a pas d'aléas dans la route. Tout ce qu'il fait, c'est Mechouvan et Mechouchban. Eh bien, ici aussi, chaque fois qu'il y a un Nisayon, c'est qu'il y a une croisée des chemins et qu'il y a deux manières de réfléchir. C'est-à-dire que d'un côté, Abraham Avinu, il en voulait, je pense, probablement à mourir à Lot de ce qu'il lui a fait, de l'avoir abandonné, la succession de l'affaire. D'accord ? Mais d'un autre côté, il s'est dit, mais si je ne fais pas ça, si je ne le sauve pas, c'est la fin. C'est la fin, c'est-à-dire qu'est-ce que je montre au monde ? Quel est mon message ? Que je ne suis pas capable de garder ce lien familial. Et donc c'est là où était le dilemme. Et donc c'est le même type de dilemme que dans l'Ech Lecha, c'est le même type de dilemme que dans la Akeda, c'est le même type de dilemme que quand il y a eu la famine. Il est arrivé en Eretz Israël, d'accord ? La première chose, il n'y a plus rien à manger. C'est la famine. Mais attends, je ne comprends pas, il y a un problème là. Il y a la famine, tu m'as promis cette terre où coule le lait le mien, dès que j'arrive, il n'y a plus rien à manger, à tel point que je suis obligé de quitter Eretz Israël. D'accord ? Et donc à chaque fois, ce sont des dilemmes qui lui posent des questions sur, entre guillemets, la manière dont Hachem il gère le monde. Tous les nisyonotes, Hachem il est toujours là-dedans. Ça veut dire que c'est vrai qu'il y a des autres nisyonotes, j'ai un corps au pied, j'ai l'angine, n'importe quoi, c'est aussi un petit nisayon. Mais les grands nisyonotes de la vie, c'est pourquoi Hachem il me fait ça ? Pourquoi Hachem il m'a dit ça ? Je comprends plus rien, c'est quoi le plan d'Hachem ? Et on voit que tous les nisyonotes, c'est cela, d'accord ? Pourquoi cette situation elle se présente à moi et quelle voie je vais suivre ? Donc ici, il dit le Rav Steinbourg ici aussi qu'en réalité, il était écartelé, Avraham Avinu, entre sa volonté de laisser Lot avec ses choix. T'as choisi. Qu'est-ce que je vais pas me donner ma vie maintenant pour aller te sauver des griffes des gens qui t'ont pris ? Et d'un autre côté, il s'est dit non, je peux pas faire ça parce que c'est contre le sens profond de mon message. Je reprends à la quatrième ligne du deuxième paragraphe. Avraham Evin Asakana. Vous êtes au bout de la quatrième ligne. C'est Avraham, là. Et Avraham, t'es bon là ? là. Et Vina Sakana, il a compris le danger chez Bedavar de la chose, chez Imlo Yetzele Atsilo, que s'il ne va pas sortir pour le sauver, Irou Anagat Iré Hachem, les gens verront quel est le comportement de ceux qui craignent Dieu. Ou Bekar Alul Limnoa, et à cause de ça, ça arrivera à empêcher Mibin Adam des autres gens du monde, l'Itzaref Le Emouna Bekel Echad, de s'associer dans la croyance d'un Dieu unique, Bitchalel Shemoid Barar, et ça fera une profanation du nom de Dieu. Le Kach Lo Azvo Le Navsho, c'est pour ça que il l'a pas abandonné, Vyatsa Le Atsilo, il est sorti le sauver. Vera Bekach Nisayon, et il a vu en ça Nisayon, une épreuve, ça veut dire un choix crucial, et en même temps, une élévation dans le sens où il faut toujours oublier, ne pas oublier que le mot Nisayon, comme je vous ai dit, c'est à la fois une épreuve, à la fois un étendard. Étendard dans le sens, c'est un point de ralliement. C'est-à-dire que pour nous, c'est un point de ralliement. C'est-à-dire que, voilà, Abraham, il l'a fait, you can do it. Vous pouvez aussi le faire. Tu peux le faire. Tout ce qu'il a fait Abraham avec nous, pour moi, c'est des repères. D'accord? Pour chacun d'entre nous, je peux le faire. S'il l'a fait, je peux le faire. Mais Chovat Kiddush Hashem, il y avait une sanctification du nom de Dieu. Mais la reine, Zema Asara Nisyonot, ça fait partie des 10 épreuves chez Nidnasa Avram Avinu par lesquelles a été éprouvé Avram. Au Matsati, j'ai trouvé chez Gam Bemidrash Mevoarken, que même dans le Midrash, c'est expliqué comme ça, chez Avram Amar, qu'Avram il avait dit, Etse Ve'epol al Kiddush Hashem. Avram Avinu, il ne savait pas qu'il allait gagner. Il a dit, je vais sortir et je tomberai al Kiddush Hashem. Parce qu'en réalité, il y en a qui veulent dire que l'épreuve là, il y a plus, puisque en fait dans la Torah nous décrit simplement une histoire, mais elle ne nous dit pas où est le Nisayon. Il y en a qui voulaient dire qu'en vérité le Nisayon, un peu comme il a dit Gérard, c'est j'ai confiance que Dieu va m'aider dans la guerre. D'accord? C'est un Nisayon de force. Ok? Mais les Nisayonot d'Abraham Avinu, ils sont beaucoup plus fins que ça, ils sont beaucoup plus cruels que juste des Nisayon, je fonce et je vais gagner. Donc il dit, parce que le Midrash dit qu'Abraham Avinu, il savait même pas qu'il allait gagner. Il a dit, je vais mourir à Kiddush Hashem. Que si je meurs, les gens diront, ah, tiens, lui, ça c'est l'Emouna en Dieu, qu'il est capable de mourir pour sauver son frère. Aré Shebara, Bemilchama Negedam Lachim, on voit qu'il a vu dans cette guerre contre les rois, Milchemet Kiddush Hashem, une guerre de sanctification du nom de Dieu. Ça veut dire que cette idée-là, d'être capable de partir en guerre et de risquer de perdre sa vie, pour sauver son frère, ça c'est une grande sanctification de nom de Dieu. Donc je trouve aussi que c'était important maintenant, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'ils vont rentrer, pas rentrer, mais c'est vrai qu'aux yeux du monde, d'accord, le peuple juif c'est un peuple qui ne laisse pas un prisonnier, on ne le laisse pas. Ah mais ils vont mourir des dizaines de soldats, on va risquer de perdre 1000 soldats pour sauver 200 otages, c'est pas grave, on ne laisse pas un juif otage. Et s'ils vont mourir, eh ben ils vont mourir. C'est un Kiddush Hashem. C'est-à-dire qu'aux yeux du monde, c'est ça. Le peuple juif, ils savent. Toutes les nations du monde, ils savent. Pour Gilad Shalit, ils se sont battus 10 ans. Pour un, ils ont donné 1000. Alors, c'était une erreur, pas une erreur, c'est pas le sujet de maintenant. Mais le monde sait que le peuple juif, il laisse pas un autre juif prisonnier. Il fera tout, même au péril de sa vie. Et cette force-là, on la tire d'Abraham Avinu. D'accord? Et donc, ici aussi, on voit qu'il y a beaucoup de facettes dans ce Nisayon. Il y a cette facette, comme il dit à la fin, de risquer sa vie pour un autre juif. Mais il y a aussi la facette de risquer sa vie pour un juif qui finalement n'en vaut pas la peine, entre guillemets. C'est que c'est même pas comme maintenant c'est tous des juifs. Un juif qui vaut pas la peine maintenant, ça n'existe pas. Chaque juif, il vaut la peine. D'accord? Religieux, pas religieux, ça n'a rien à voir. Un juif, c'est un juif, c'est un diamant, juste qu'il est recouvert de poussière. Mais l'autre, c'était pas encore un juif. C'était son neveu. Mais malgré tout, il était dans la famille d'Abraham Avinu. Et donc tous ceux qui sont venus se joindre à Abraham Avinu, ils se sentaient pas moins que l'autre. Et ils n'auraient pas compris. Et donc l'initiateur de l'action terrestre à Gaza, entre guillemets, c'est Abraham Avinu. Voilà. Que c'est un Inyan de Noyama. En vérité, ça n'a rien à voir parce que ça, je l'avais gardé de l'année dernière. Mais je trouvais que cette année, il était particulièrement puissant pour nous. Qu'il y a un sens. Et que ça, c'est l'épreuve d'Abraham Avinu. Et puisqu'Abraham Avinu, il l'a fait et il a gagné, et ben nous aussi on le fera, et bien Ezrat Hashem, on va gagner. Allez, Chabez.